des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Justement, on va rester dans le thème libéral parce qu'hier, dans le journal de Montréal, on apprenait, nous tous, que l'ex-bras droit de Philippe Couillard et chef de campagne de Dominique Anglade, Charles Robert, s'expose à des pénalités allant de 500 $ à 25 000 $ pour n'avoir pas respecté les règles de lobbying de ses 5 mandats. Avec nous, maître Jean-François Routier, qui est commissaire au lobbyisme. Monsieur Routier, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Alors, ces règles de lobbying des 5 mandats qu'aurait dû respecter M. Robert, là, de quoi parle-t-on exactement?
Ben, sans parler du cas de M. Robert spécifiquement, il y a des dispositions dans la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme qui, effectivement, créent des interdictions pour un ancien titulaire de charge publique, dont les membres de cabinet, mais aussi le personnel de cabinet, d'exercer des activités de lobbyisme pendant un certain temps selon les fonctions qu'elles occupaient.
OK. Et dans le cas de M. Robert, ben, on ne parlera pas du cas de M. Robert. Là, je comprends ce que vous dites, M. Routier, là, mais ça faisait pas un an qu'il avait quitté le gouvernement, donc il ne pouvait pas accepter des mandats de lobbying.
Exactement. Dans les faits, un membre de personnel de cabinet doit attendre pendant un an, une interdiction d'un an, pour agir comme lobbyiste, pour faire des activités de lobbyiste, mais aussi pour agir comme lobbyiste conseil auprès des titulaires de charges publiques, donc des membres de la fonction publique ou des élus ou des membres du gouvernement.
Pour dans quel but, là? Pour protéger quoi, au juste?
Ben, essentiellement, les règles d'après-mandat existent dans à peu près toutes les législations en matière de lobbyisme. Et l'objectif, c'est véritablement de s'assurer que les gens n'utilisent pas, si vous voulez, d'une certaine façon, leur réseau de façon indue pour aller influencer des décisions. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui quitte le gouvernement, qui quitte un poste, ben, laisse derrière lui tout un réseau de personnes qui le connaissent bien, ou encore cette personne-là connaît très bien les mandats. Donc, on vise d'une certaine façon à restreindre les activités de lobbying qui peuvent être effectuées par des anciens membres du gouvernement, par exemple, ou des anciens fonctionnaires même. Également des dispositions qui visent la confidentialité des informations, et ça n'a pas de limite de temps, ainsi que le fait de ne pas pouvoir exercer ou utiliser des informations qu'on a pour obtenir un avantage indu. Ces deux dispositions-là n'ont pas de limite de temps.
Parce qu'on tombe dans le trafic d'influence à ce moment-là.
Ben, évidemment, c'est facile de faire des amalgames, mais sans faire du trafic d'influence nécessairement, il est évident que une personne qui vient de quitter des fonctions peut avoir une influence ou peut avoir accès plus facilement, dans certains cas, aux membres du gouvernement. Et c'est exactement ça l'objectif de ces règles-là, qui sont prévues aux articles 27 et 32 à 32 de la loi.
Oui, parce que si on ne respecte pas, M. Routier, ces règles-là, ça affecte la confiance des gens envers la classe politique, là. On voit des anciens élus ou des dirigeants du gouvernement là, qui sont prêts à monnayer les relations ou l'expertise qu'ils ont développée. Mais c'est pas pour le bien commun, là. C'est pour des projets privés, c'est pour des intérêts privés.
Ben, l'objectif de la loi sur la transparence en matière de lobbyisme n'est pas d'empêcher d'aucune façon les communications, mais bien qu'elles soient justement transparentes pour maintenir la confiance du public envers les institutions publiques. Donc, le but n'est pas d'empêcher non plus quelqu'un d'exercer sa profession ou d'utiliser les connaissances qu'il a acquises. Mais, évidemment, si les communications sont transparentes, ben on présume que ça amène, ça favorise la confiance du public.
Ouais. Là, je lisais aussi là, M. Routier, c'est pas dans le sujet comme tel, mais je lisais aussi l'histoire de Guy Laliberté là, qui s'est présenté comme lobbyiste. Puis là, tu dis, est-ce que vraiment on doit financer un milliardaire, là, un lobbyiste qui demande l'argent du gouvernement des contribuables? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, là? Est-ce qu'il y a un malaise là-dessus, là, à savoir des gens qui ont, tu sais, comme Guy Laliberté qui débarque comme lobbyiste tout à coup? Est-ce qu'il y a des règles?
Ben, vous savez, lobbyiste, c'est pas une profession. Hein? Toute personne est potentiellement un lobbyiste dans la mesure où elle tente d'influencer une décision du gouvernement. Et tout citoyen a le droit de tenter d'influencer les décisions du gouvernement. La loi ne vient pas dire ce qui est, comment je dirais, socialement acceptable ou pas. D'aucune façon, elle vient mesurer si c'est pour le bien commun ou un intérêt privé ou toute autre forme. Là. Alors, toute personne doit s'inscrire comme lobbyiste lorsqu'elle fait des activités de lobbyiste. Donc, c'est pas anormal qu'on voit des gens s'inscrire comme lobbyiste. Au contraire, c'est juste respecter la loi et donc favoriser la transparence.
Est-ce que les citoyens ordinaires ont des lobbyistes?
C'est-à-dire qu'un citoyen ordinaire peut embaucher un lobbyiste, qu'on va dire un lobbyiste conseil, pour le représenter. Dans certains cas, ça s'est déjà vu, des regroupements de citoyens qui vont embaucher un lobbyiste conseil, par exemple, pour favoriser ou contester une décision gouvernementale. Donc, c'est plus rare. Le citoyen ordinaire, lui, n'a pas à s'inscrire comme lobbyiste. C'est l'exception des exceptions. Un citoyen a toujours le droit de faire des représentations auprès des élus, par exemple, ou auprès des membres du gouvernement. Il n'est pas assujetti à cette loi-là lorsqu'il agit comme citoyen.
Pas sûr que l'élu va prendre son appel, mais je comprends le concept. Monsieur, je reviens au cas de M. Robert avant qu'on se quitte, M. Routier. Dans l'article hier, on parlait de pénalités allant de 500 à 25 000 $. Comment vous expliquez cet écart?
J'ai du mal à vous l'expliquer. Dans les faits, à l'époque, je crois qu'on... Il faut se rappeler que c'était en 2002 que la loi a été adoptée. Hein. Alors, 500 $, c'était peut-être beaucoup d'argent à l'époque. Aujourd'hui, ça peut sembler peu, d'autant plus que à travers l'histoire, nous n'avons eu qu'une seule pénalité du double, c'est-à-dire de 1000 $. Donc, on s'est jamais rendu au-delà de 1000 $.
Ah, ouais.
On peut faire un procès pénal pour... éventuellement une pénalité de 500 $ avec tous les enjeux et tous les coûts sociaux que ça amène. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, se re-questionner sur le mode de sanction aussi qui est prévu dans la loi. C'est ce qu'on a en fait proposé comme réflexion aux parlementaires quand on a déposé notre énoncé de principe en juin dernier.
Ouais, faut avoir un peu plus, faut vous donner un peu plus de croc là, si je comprends bien, un peu plus de mordant.
Il y a des éléments. Quand quelqu'un fait complètement fi de la loi, c'est sûr que la mesure pénale peut rester la meilleure mesure ou encore des sanctions disciplinaires quand le manque à vous répéter. Mais pour la plupart des infractions qu'on peut constater, ce sont des infractions de retard. Alors, dans la majorité des lois maintenant au Québec, on a plutôt prévu des modes de sanctions administratives qui évitent d'envoyer le dossier au DPCP, par exemple, pour faire un procès pénal à quelqu'un.
Oui, oui. Des retards dans l'inscription du registre aux lobbyistes.
Exactement. Donc, des retards soit dans la divulgation, soit dans des amendements. Alors ça, on est plus dans des mesures administratives qu'on voit dans beaucoup d'autres lois. Par exemple, en matière de services financiers, pour les courtiers ou les gens en assurance, il y a ce type de sanctions-là. On va les retrouver à travers le corpus législatif québécois. On pense que ça peut être une avenue intéressante.
Très bien. Ben, merci de nous avoir expliqué tout ça, M. Routier, commissaire au lobbyisme. Merci. Bonne journée.
Un grand plaisir. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez
Dutrisac.